Alors, effectivement, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là avec vous. Je découvre des sœurs que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, et c'est quelque part un peu miraculeux. J'arrive là et je découvre des membres de ma famille. Et j'aime vraiment beaucoup avoir du temps à part entre femmes, et Corbut et Aurore m'ont dit qu'ils avaient décidé de démarrer des rencontres entre femmes. Je me suis tout de suite dit, waouh, quelle bonne idée, je suis pour. Et ensuite, quand elles m'ont invitée, déjà l'année passée, où d'un coup ce n'était pas possible pour moi, dans mon cœur, je me dis, je pars que l'occasion va se donner pour que je puisse aussi rencontrer cette assemblée, et en particulier mes sœurs ici. Donc c'est vrai qu'il y en a peu parmi vous que je connais déjà, quelques-uns, et c'est bien de voir quelques visages connus, mais celles parmi vous que je n'ai même pas encore pu saluer ce matin, moi je suis très touchée de savoir que nous sommes effectivement dans la même famille, même si moi je viens de loin, je suis norvégienne. Vous êtes française, mais on est dans la même famille et nous pouvons vivre ce moment vraiment entre sœurs. Même s'il y a parfois, et certainement, des grandes différences qui nous séparent, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir vivre quelque chose de fort ensemble et puis vivre aussi même une unité dans ce moment. Donc, merci Aurore Ruth de m'avoir invité. C'est sûrement plus un remerciement à Aurore Ruth. Voilà, c'est fait. Je vous indique juste un petit peu le programme que nous allons vivre ensemble pendant ces 2 heures. Je vais raconter vraiment une toute petite mini témoignage tout au départ pour me présenter. Ensuite, je vais introduire un peu plus le thème et on va parler essentiellement de ce qui nous bloque en fait dans la découverte, le développement et aussi l'exercice de nos dons. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà eu l'occasion de faire des études sur les dons. Et je ne sais même pas si peut-être dans l'église vous avez déjà fait aussi des espèces de questionnaires, ça c'était dans l'église ou bien des questionnaires sur la découverte des dons. Non, bon, on va en parler. Mais voilà, en tout cas je sais que certains ont déjà étudié le thème et voilà, je m'excuse d'avance s'il y a un peu de redite pour certains, mais j'ai choisi de focaliser sur ce qui peut nous empêcher de rentrer pleinement dans nos dons, de voir un peu cette liste qui est très longue en fait, elle est très longue, mais voir quelques éléments, quelques blocages qui sont importants et comment les déjouer. Voilà, on ne va pas rester focalisé sur le blocage, mais on va essayer de voir ensemble comment est-ce que je peux déjouer ces obstacles et aller plus loin. Et ça, à n'importe quel âge, à n'importe quel cap de ma vie. Donc là, vraiment, je m'adresse à nous toutes. Quel que soit notre parcours, quel que soit nos dons, quel que soit notre âge, voilà, où est-ce que j'en suis? Quel est le potentiel qui est encore là devant moi? Donc, j'espère vraiment que le Seigneur peut, et il veut le faire, nous enthousiasmer encore d'aller plus loin et encore développer nos dons et chercher à voir tout le potentiel qui est là devant nous. Dans un deuxième temps, je vais vous faire travailler un tout petit peu par groupe, où vous allez pouvoir discuter ensemble, en petits groupes, je pensais des groupes de 4-5, pour voir ensemble où est-ce que j'en suis. Bon, première question très basique. Est-ce que je connais mes dons? Est-ce que j'ai à peu près cerné en quoi je suis douée, les capacités que le Seigneur m'a données? Deuxièmement, est-ce que je vis des blocages actuellement? Qu'est-ce qui bloque pour que je puisse vraiment rentrer pleinement dedans? Et troisièmement, prière les unes pour les autres, pour justement que Dieu nous aide dans ce qui nous bloque, qu'on puisse vraiment partager ouvertement. Alors, c'est un défi un peu que je vous lance, parce que c'est pas facile de parler de ces dons. Déjà, on a une espèce d'idée que... Mais voilà, pour rester vraiment dans une bonne humilité et tout, j'en parle pas trop de mes capacités, mes dons, parce qu'en fait, je veux pas me mettre en avant, Je veux pas. Mais bon, je vous lance un tout petit peu un défi. Je vous invite quand même à parler de vos dons dans ces petits groupes, à oser nommer. Voilà, là, je sens que j'ai des capacités, je vois que. Alors, comment est-ce que je peux aller plus loin ou... J'aurais besoin de prière pour ça parce que là, je me sens un peu bloquée, je manque d'assurance. Et qu'on puisse vraiment s'encourager mutuellement et se soutenir dans la prière les unes les autres. À toute étape de vie, hein, je répète ça, vraiment dans toute situation. Moi, j'ai mis beaucoup de temps dans la recherche de mes dons, dans le développement de mes dons, dans l'application de mes dons, et je ne suis pas au bout de ce processus-là. C'est un processus qui a commencé il y a très longtemps, et c'est vrai que l'idée de développer une beauté par les dons, d'être belle aux yeux de Dieu en exerçant mes dons, c'est un message que j'ai quand même reçu très très jeune. Alors j'avais la chance d'évoluer dans un contexte. Je vous ai parlé de la Norvège, j'ai aussi vécu aux États-Unis et c'était des contextes tous les deux où, autant que femme, j'étais plutôt stimulée. On me voyait, on m'encourageait, on disait voilà, that's great, wonderful, marvelous. Vous connaissez les Américains, hein, ils sont terribles, hein. Ils multiplient les adjectifs, c'est trop, c'est trop. Mais quand on est une toute jeune femme, ça fait du bien, ça fait du bien. C'est exagéré, c'est vrai, par des moments. Mais voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir du feedback assez tôt sur certains aspects de ma personnalité, sur certaines choses en moi, et voilà, des encouragements assez tôt. Mais, juste pour vous donner un exemple, assez tôt, on me disait que j'étais quelqu'un de très relationnel, et je le sentais aussi que j'avais un contact facile, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça mon premier don, le relationnel. Alors, je pense qu'on est beaucoup de femmes à se sentir concernées par le relationnel. On veut être là pour les autres, être à l'écoute. On se dit, tiens, est-ce que je ne devrais pas faire, par exemple, une formation dans la relation d'aide pour pousser plus loin, pour développer ses compétences dans le relationnel. Et moi, je me posais ces mêmes questions, même très jeune, et j'ai suivi une formation. J'avais une occasion une fois de suivre une formation avec Jacques Pujol, ce qui était très intéressant, et je me suis dit, je vais me donner quelques moyens. Et après, j'ai commencé à tester un peu. Et en fait, j'ai trouvé vraiment difficile de faire un travail de relation d'aide bien suivi, perspicace, les bonnes questions, le discernement du vrai problème. Et je voyais autour de moi certaines personnes qui avaient de toute évidence le don et qui fonctionnaient à merveille. Et j'ai dû me remettre en question. Et d'un coup, j'ai dû me dire, tiens, c'est peut-être pas parce que j'ai un contact facile que j'ai le don de la relation d'aide. Et le Seigneur m'a montré au fur et à mesure, mais tout ça, ça a été un long processus, qu'il m'est demandé de fonctionner dans le domaine du relationnel sur un niveau assez basique. On en a parlé au REF avec Ruth et Aurore, surtout sur, j'allais presque dire, le premier petit niveau, mais très très important de la relation d'aide, tout ce qui est accueil, écoute et encouragement. Et une fois que j'ai réalisé que le Seigneur m'appelait à plutôt travailler sur ce niveau-là, que je n'étais pas obligée de chercher des entretiens extrêmement pointus, où il fallait discerner vraiment de façon très, très claire le vrai problème derrière ce qui était dit, suivre de façon très pointue, c'était très libérateur pour moi. Parce que, en fait, finalement, j'avais d'autres dons qui étaient plus importants que ce don que je pensais que j'avais peut-être de la relation d'aide, et de savoir que le Seigneur me libérait pour fonctionner sur le niveau qui me convenait. Et il m'a montré, mais Ruth, tu es plutôt quelqu'un qui va encourager. Je te demande de fonctionner dans l'encouragement. Il y en a d'autres qui vont s'occuper des entretiens plus approfondis. Alors, quelque part, c'était pas une claque, mais une petite, voilà, une question, mais très salutaire pour moi. Donc c'est juste un exemple. Il y avait un don que je pensais que j'avais. J'ai commencé une formation, je me suis testée, je voyais que les résultats étaient moyens, et j'ai demandé du feedback des personnes, et j'ai réalisé que j'étais peut-être pas très à l'aise, et qu'il fallait que j'affine un peu, ma compréhension de moi-même, qui j'étais, quels étaient mes dons réels, parce qu'il y a le don de la relation d'aide, mais il y a aussi le don de l'encouragement. J'aime vraiment aller vers les gens pour chercher à valoriser, encourager un petit côté coaching. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ce domaine-là que dans des entretiens plutôt pointus. Des entretiens qui vont vraiment pousser très loin dans l'analyse des vraies situations et voilà. Donc un petit exemple qui fait partie de mon parcours. Un autre exemple, je suis femme de pasteur depuis l'année 91. Donc ça fait quelques années que je fonctionne avec mon mari dans un couple pastoral et je suis avec lui, même si je travaille aussi à 50% comme prof d'anglais, donc dans ma profession d'origine. Et aussi dans mon rôle de femme de pasteur, il y a eu tout un processus parce que j'ai réalisé que je ne rentre pas tout à fait dans la moule classique. Une cuisinière, mais extrêmement moyenne. L'organisation des agapes, la capacité de bien structurer, organiser les choses, pas au top. Pas très secrétaire, donc l'administration de l'église non plus, je ne pouvais pas faire grand-chose. Et alors c'est rigolo parce que quand il y a eu des entretiens quelque part d'embauche, donc mon mari était sollicité, il me faisait venir les deux, on me posait des questions aussi, parce que bon, on m'a bien fait comprendre que bon, beaucoup d'églises qui engagent un pasteur, ils souhaitent engager un couple pastoral. Et j'ai appris à, sans faire dans la fausse humilité, mais quand même dresser la liste des dons que je n'ai pas, pour éviter qu'il y ait trop de déceptions. Et c'était très libérateur pour moi d'apprendre avec le temps à dire non à certaines responsabilités. Il y a une fois que je dis oui pour être chef de cuisine, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. C'était une vraie catastrophe. Tout le monde a souffert. Mais vraiment. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, là, je fais une gaffe, j'aurais dû savoir dire non quand même. Ils avaient besoin d'un chef de cuisine, c'était pour un camp. Il n'y avait personne, de très bonne volonté. Je levais la main dans un moment de grande faiblesse. J'ai dit oui. Et c'était très intéressant, comme humiliant, mais très intéressant comme expérience. Et j'ai réalisé qu'il y a des moments où il faut que je dise non, en fait. Je veux volontiers assister le chef de cuisine. Je donne volontiers un coup de main. Je lave les salades. Je râpe les carottes. Ça, oui, c'est dans mes compétences. Mais d'être chef de l'ensemble, je ne peux pas. Et d'apprendre petit à petit, en mûrissant, en grandissant avec le Seigneur, que voilà, qu'il y avait des moments où non seulement j'avais le droit de dire non, de fixer certaines limites, mais c'était même ma responsabilité de dire non, pour ne pas mettre tout le monde dans l'embarras, de ne pas aller au-delà de certains dons que, voilà, justement, que je n'avais pas. Heureusement que j'aime beaucoup enseigner, donc j'ai tout de suite levé la main pour l'école le dimanche et là tout le monde était rassuré. Ah oui, bon, enfin, événement en tout cas faire l'école le dimanche. Là tout le monde, je sentais qu'il y avait des soupirs de soulagement. Bon, est-ce qu'il ne fera pas des week-ends, des agapes, des gros repas? Mais faire l'école le dimanche, c'est bien. Donc, il y a des fois on est dans des situations ou des attentes, peut-être en particulier quand on rentre dans un ministère, quand on a un rôle dans l'église, que ce soit la femme de l'ancien, la femme du pasteur, ou la femme diacre, ou quand on est dans une responsabilité dans l'église, il y a des attentes, mais parfois des attentes qui ne correspondent pas. On peut volontiers donner un coup de main, mais voilà, on veut non plus prendre la charge ou la responsabilité pour un secteur qui ne correspond pas à mes dons. Et tout ça, je parle de ça avec le sourire, en effet, c'était parfois un peu douloureux de décevoir, mais au moins, ça m'a permis petit à petit d'apprendre à fixer certaines limites, tout en attendant au Seigneur pour être disponible, volontaire, essayer d'être bien présente et donner un coup de main quand il y avait des besoins qui ne correspondent pas forcément à mes dons, mais de ne surtout pas prendre sur moi des grands chantiers qui ne me correspondaient pas. Donc voilà, un apprentissage, je vous encourage, on aura l'occasion d'en parler ensuite aussi. C'est le plan de Dieu, en fait, pour l'Église, que nous rentrons dans nos dons, que nous découvrons nos dons, que nous cherchons à développer nos dons et que nous appliquons nos dons. C'est son plan. Et vous avez entendu l'expression « sacerdoce universel », mais c'est ça. C'est ça le sacerdoce universel. Chacun prêtre, chacun responsable, chacun doué. Il n'y a pas que les anciens, les diacres, ceux qu'on voit devant, qui sont doués, mais chacun doué dans différents domaines. Et cet ensemble qui tout ce dont constitue, c'est cette sacerdoce universel où chacun est appelé à vraiment utiliser les capacités et les dons que Dieu nous a donnés. Et c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de très très beau. Et moi je parle là d'une beauté collective, une beauté d'un ensemble, avec plein de facettes, chaque facette qui brille, chaque don qui brille. Et ensemble, ça fait quelque chose de vraiment extrêmement beau. Moi, je ne peux pas le décrire parce que moi, je suis très impressionnée hein, quand je vois comment les dons peuvent fonctionner ensemble dans une assemblée. Mais moi, je ne vois pas du tout ce que Dieu voit et lui. Mais alors, c'est une joie immense pour Dieu de voir que les dons fonctionnent ensemble, que les dons se complètent. Se soutiennent, c'est quelque chose de vraiment très très grand. Et je pense que quand on rencontre des obstacles dans la découverte même parfois et le développement de nos dons, je pense que là il y a un combat, c'est clair, parce qu'il y a des obstacles qui sont très concrets, très pratiques, mais je suis convaincue que l'ennemi, il sait très bien, il connaît, il voit quand les dons fonctionnent. Quand chaque personne peut rentrer pleinement dans son don ou ses dons, et la beauté qu'il y a là dans l'exercice du don qui nous colle, qui nous corresponde, c'est très grand, je ne peux pas l'exprimer. D'ailleurs, il ne faut plus que je parle trop de ça parce que ça me touche beaucoup, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Et quand il y a des obstacles sur notre route, il faut savoir qu'il y a un élément de combat. Et qu'il ne faut pas hésiter de se dire, bon là, je prends position, je cherche mon don, je développe mon don, j'y vais, avec sagesse, avec doigté, on est bien sûr d'accord, on ne va pas faire des bulldozers non plus, mais je veux rentrer dans ce plan-là, je veux faire partie de ce sacerdoce universel, je veux jouer ma part, je veux être dedans, parce qu'en fait, vous l'avez vu comme moi, quand quelqu'un fonctionne selon le don que Dieu lui a donné, mais il y a une beauté. Ça saute aux yeux, les visages se décrispent. Il y a quelque chose qui se passe, qui est au-delà de ce qu'on peut vraiment comprendre, je pense, sur un plan intellectuel. Il y a l'Esprit de Dieu, tout simplement. L'Esprit qui donne le don et qui est là dans l'exercice du don, ça rend mais n'importe qui, au-delà de toute considération esthétique, plus beau. C'est évident. On a dans l'église chez nous un jeune homme, d'ailleurs qui a été engagé dernièrement comme pasteur jeunesse dans notre assemblée, donc c'est une grande nouveauté pour nous. Il est engagé à mi-temps donc pour s'occuper des enfants et des jeunes. Il est vraiment très doué dans sa communication avec les enfants et les jeunes. Et il y a une beauté dans ces moments où on le voit parfois devant à l'église, à communiquer, on est là, mais c'est trop beau de voir quelqu'un qui est parfaitement à sa place. C'est, voilà, c'est touchant, c'est touchant. Et ça part, et d'un coup, il n'y a pas que les jeunes qui profitent, toute l'église est là, ah oui, c'est trop bien. D'un coup, ça nous parle à tous. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout dans le médical, je suis prof d'anglais, la médecine, je ne comprends pas grand-chose, mais il y a l'image du corps quand même qui me parle beaucoup. Je sais que dans des études précédentes, vous avez traité le côté esthétique aussi, comment gérer l'image du corps qu'on nous véhicule aujourd'hui dans notre monde, comment se situer, comment essayer d'être belle sans se prendre la tête. Voilà, je suis contente de ne pas traiter ce thème-là, en fait. Je préfère parler de tout. Mais l'image du corps est une image qui est très forte aussi dans la Bible. Et vous connaissez cette image qui revient mais à plusieurs reprises, et on va lire quelques textes tout à l'heure. Ce corps qui est constitué donc de plein de membres, de plein d'organes, du plus petit au plus grand, et qui, quand il fonctionne comme Dieu a prévu, quand il y a une harmonie entre les différents membres, le corps est magnifique. Et là, quelle que soit la couleur des cheveux, des yeux, la beauté sur un plan esthétique, mais le corps dans son fonctionnement est magnifique. Dieu nous le dit, créature merveilleuse. C'est merveilleux. Et quand on réalise que même le membre le plus insignifiant, quelqu'un m'a expliqué que le petit orteil, qui à mes yeux semble insignifiant, est très important pour l'équilibre de l'ensemble. Sans nos petits orteils, on a du mal à avoir un bon équilibre. Quand on sait que même le moindre petit membre du corps insignifiant est très important pour l'ensemble, mais c'est très très rassurant, parce qu'il y a des fois on se regarde et on se dit, mais en fait mon don, j'ai un don qui ne se voit pas trop en fait, j'ai un don qui, je veux bien croire que c'est important, mais je ne me sens pas spécialement important dans l'ensemble. Mais la Bible nous dit très très clairement que tout don vient de lui déjà, et que lui, il choisit le don qu'il nous donne, c'est très précis tout ça, c'est vraiment lui, par son esprit, qui nous dote de quelle était telle et telle capacité, et qui nous équipe, et que chaque don est extrêmement précieux à ses yeux. Même si nous, sur un plan humain, parfois on fait une espèce d'échelle, et c'est sûr que celle qui est devant au micro, d'un coup, vous me voyez, moi je ne vois pas tout ce que vous faites, et votre exercice de votre don. Je ne doute pas que chacune ici a un ou a plusieurs dons et qui a un potentiel énorme pour chacune, mais on le voit plus ou moins. Et c'est important de se rappeler ensemble que tout est extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Lui, il le voit. Lui, il voit absolument tout. Parce que nous, on peut estimer comme un petit don. Pour lui, il n'y a pas de petit et de grand don, ça c'est clair. Il faut qu'on lise, parce que je passerai des heures à lire ces textes. J'ai fait quelques choix que j'espère judicieux sur la répartition des dons et la base, l'origine des dons. En 1 Corinthiens 12, j'ai choisi plusieurs versets. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Il distribue comme il veut. Le corps humain forme un tout Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée. J'aime ça. La grâce infiniment variée dans la multiplicité de tous ces dons différents. Il faut voir une grâce infiniment variée. C'est magnifique. Le don est une grâce. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne, agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Ah, ça nous donne une perspective incroyable. Voilà les bases. C'est des textes, 1 Corinthiens 12, 1 Pierre 4, c'est des textes à méditer dans le moment où on n'est pas trop sûr de son utilité, ma place, je ne sais pas trop. C'est des textes à méditer pour nous laisser inspirer, rebooster, nous rappeler de ces bases déjà, ce que Dieu nous a promis. Chacun un don particulier, donc ça me concerne aussi, et le potentiel, la beauté qu'il y a dans tout ça. C'est, voilà, à méditer. Alors, Christian Schwartz a écrit un livre super intéressant que je sais que Ruth et Aurore, elles ont eu l'occasion de l'étudier. Et j'avais à cœur de vous le montrer parce que pour celles qui sont vraiment en recherche, qui se posent beaucoup de questions, c'est un livre qui non seulement décrit tous les différents dons que Dieu a mis à notre disposition, mais il y a aussi des questionnaires. Ah, Ruth, excuse-moi, Suzanne, tu as dû le faire aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc, des questionnaires. Ah non, c'est un questionnaire, mais. Comment un questionnaire qui ne me connaît pas peut être précise. Mais c'est une indication. Et ça peut être chouette de se tester un petit peu, de voir mais dans quel domaine on est plus à l'aise, dans quel domaine on n'a vraiment rien à donner. Et voilà pour nous aider un tout petit peu sur ce chemin de découverte de qui nous sommes finalement. Donc, vous avez là en pagaille les dons, mais c'est très intéressant, la libéralité, on ne pense pas forcément à ce que ce soit un don. Habilité, Manuel, un don, guérison, foi, évangélisation, enseignement, discernement, j'en ai parlé tout à l'heure en parlant de la relation d'aide, direction, délivrance, créativité artistique. C'est très intéressant parce qu'il y a des fois où on ne voit pas trop, il y a certains dons qu'on a en tête, mais en fait, il y en a tellement que ça vaut la peine de bouquiner un peu et de voir, quoi. Il a raconté, Christian Schwartz, qu'ils avaient mené ou fait une enquête en Europe germanophone auprès d'eux, je pense que c'était dans les 1600 chrétiens, pour voir un peu si les gens connaissaient leurs dons. Et bon, tout ça se fait dans un cadre, je pense, allemand, où les gens sont plutôt structurés, organisés, ils savent où ils vont. En principe, pas tous, mais ils étaient très étonnés de découvrir qu'il n'y avait que 20% qui pouvaient ou qui osaient nommer leur don. Ça laisse 80% qui étaient dans le flou. Donc un Allemand dans le flou. Et ils étaient très étonnés de voir ça, cette équipe qui a fait cette enquête, qui a fait cette recherche, et ils ont réalisé qu'il y avait peut-être justement des informations et un enseignement qui manquait dans ce domaine. Alors c'est sûr que dans les 80%, et j'imagine que vous allez être d'accord avec moi, il y avait plein de gens qui fonctionnaient de façon très naturelle dans leur don, mais spontanément. Et je pense qu'ici, même si certains d'entre vous n'ont peut-être pas défini vraiment ce qui est votre don, Mais vous fonctionnez dans des domaines où vous êtes plus à l'aise et vous avez trouvé des choses à faire qui vous correspondent, qui voilà, semblent coller à votre personnalité, et ça se fait naturellement. Donc, on ne va pas non plus tout mystifier de dire que c'est une énorme recherche. Il y a une recherche pour voilà, préciser les choses, pour fixer certaines limites. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se vivre de façon naturelle. Maintenant, on va gentiment arriver vers les obstacles parce que Christian Schwartz, quand il a mené cette enquête, il a réalisé que certainement dans les 80 personnes, il y avait beaucoup qui avaient rencontré des obstacles qui avaient empêché même la découverte de leur don. La découverte et aussi, donc, bien sûr, ensuite le développement. Et que c'était vraiment un problème. Alors lui, il nomme pas les obstacles dans son livre, mais moi, je les ai cherchés. Déjà, en moi, j'ai réfléchi à mon parcours, et j'ai une dizaine d'obstacles. Il y en a d'autres, hein. Mais je me suis dit, pour nous ensemble, c'était intéressant de voir ça, et là, je vais vous solliciter un tout petit peu, et parce que comment déjouer justement, et je sais que vous aurez des idées. Pour moi, le tout premier point, c'est la personne qui dit je ne connais pas mon don. Je ne connais pas. Je ne vois pas ce que j'ai comme don. Un premier obstacle de ne simplement pas connaître. Et alors, comment je déjoue cette situation? Comment, qu'est-ce que je fais? Si vraiment c'est le flou absolu, vos idées? Je commence par où?
Demander aux autres pour une voix.
Ouais, tout à fait, ça c'est un élément super important. Demander un peu de retour. Mm. Parce qu'effectivement, se voir pas de façon très nette ou très objective, c'est pas évident de vraiment se voir. D'autres choses? On peut tester, ouais, je pense que c'est important. On a votre petite idée, on teste quelque chose qui peut-être qui nous plaît. Tiens, commencez par ça, quelque chose qui me plaît. Il y a parfois cette idée de pour vraiment servir le Seigneur, il faut souffrir. Ça, c'est le vrai service quand on souffre. Mais en fait, Dieu nous a créés, il nous a donné des capacités, il y a quelque chose de très naturel. Il aimerait exploiter ce qu'il a mis en nous. Ce qui colle en fait à ma personnalité, donc pourquoi pas commencer à tester, comme tu dis Ruth, et on va commencer par quelque chose qui me semble assez logique, qui me plaît, qui j'ai envie de voir. Je prie, je m'informe sur les dons, je fais mon bilan personnel, j'essaie de voir un peu qui je suis. Et j'écoute la vie des autres, comme tu viens de dire, j'écoute, je les interroge, j'essaye, je teste, et ensuite je vérifie l'efficacité. Étape importante quand même. Hein. Nous, quand on a des jeunes qui viennent nous voir à l'église à Montpellier, qui disent « Ah oui, j'ai trop envie d'enseigner les enfants, j'aime trop les petits, c'est génial. » On dit tout de suite « C'est chouette, venez, 3 mois. » Mois et on va vous accompagner, on va être là pour soutenir et on est tout à fait enthousiaste, hein. On ne dit pas ça avec un ton trop grave, mais voilà, on essaie de les encourager à rentrer dans une période d'accompagnement pour tester justement. Et au bout de 3 mois, bilan. Alors c'est pas tout au bout de 3 mois, parce qu'il reste encore beaucoup à apprendre, mais au moins la personne qui s'est engagée, elle sait qu'elle peut, avec beaucoup d'élégance, dire « Non merci, en fait, finalement, c'est pas trop mon truc !» Ce qui arrive, hein, on en a eu plusieurs qui ont dit « Non, je pensais, mais je supporte pas !» C'est vrai, ou qui ont du mal à cadrer le groupe, à discipliner, qui ont beaucoup de choses à donner, mais qui n'ont aucune notion de gestion de groupe. Alors, c'est bien qu'ils ont cette possibilité de voilà, dire simplement, dans ce moment de bilan, que finalement, je vais m'orienter ailleurs, je veux voir, je vais tester d'autres services. Donc, l'idée de tester, très important, de tirer les bilans. Et c'est pas un échec. On est d'accord, c'est pas du tout un échec. Il faut pas du tout que ça soit. On sait que quand on rentre dans une période où on teste quelque chose, c'est pour voir si oui ou non. Il n'y a pas d'échec possible. C'est juste que j'affine ma compréhension de qui je suis et de mes dons, et ça me permet d'avancer et d'explorer peut-être d'autres secteurs qui me conviennent mieux. Je n'ai pas su, je n'ai pas pu, je n'ai pas voulu développer mon don. Je vois très bien ce que le Seigneur m'a donné, mais je me sens trop débutante, j'ai pas envie de faire des gaffes, il y en a d'autres qui font ça mieux que moi. Je manque de connaissances, je manque d'expérience, voilà. Voilà. Donc, on a une bonne idée de ce qui nous correspond, ce que Dieu nous a donné, mais on est très, très hésitant, quoi, parce que, voilà, il y a des craintes, ou parfois simplement on traîne les pieds, hein. Oui, plus tard, plus tard. Donc là, c'est clair que pour déjouer cet obstacle-là, qui est un obstacle intérieur, qui est vraiment en moi, je cherche à bouquiner quand même un peu, à me former. Si je me sens très débutante, et c'est pour ça que je ne me lance pas, je vais voir dans l'Église qui a ce même don, mais qui a quelques mètres, voire kilomètres d'avance sur moi, qui peut éventuellement me coacher, me montrer, me former. Est-ce qu'il y a des formations qui existent, que je peux suivre online, ou que je peux faire lors de mes vacances d'été? Quels sont les livres qui peuvent m'aider? On va chercher à mieux cerner son don et se former, simplement. Et puis, bien sûr, aller plus loin dans voilà, ce qu'on disait de tester, d'essayer, d'oser se lancer pour apprendre. C'est là, c'est vrai que c'est quand on se lance vraiment qu'on apprend. C'est bien de bouquiner, c'est bien les formations. Mais c'est surtout sur le terrain, une fois que je me lance, une fois que j'ose me lancer, que je vais apprendre. Alors je ferai des gaffes. Mais comme pour tout, quand on débute, et ça ne doit pas être un problème. Si je suis d'accord de me remettre en question et continuer et petit à petit, et bien m'entourer avec des gens qui me disent, voilà, là, peut-être tu pourrais faire un tout petit peu différemment, on discute, on fait des bilans, et petit à petit, on avance. Numéro 3, je me compare aux autres, et même je jalouse. Gros obstacle, majeur. Je crains que ça nous guette plus en tant que femmes que les hommes. Ouais. Je connais des femmes, alors ça fait dresser les cheveux sur la tête, mais des femmes qui rentrent dans une pièce, qui regardent autour d'elles pour voir qui est la plus belle dans la pièce. C'est fatigant quand même ça, vivre comme ça, toujours évaluer qui est la plus belle et où on se situe, quoi. Voilà, où on en est au niveau de, voilà, je parle de beauté physique, mais il y en a qui font la même chose au niveau des dons. Mais c'est qui la plus douée? C'est qui parle le mieux en public, qui chante le mieux, domaine sensible, très sensible. Et là, mais on se fait, je pense, toutes avoir, plus ou moins, parce qu'on regarde et voilà. D'abord, on s'est dit, ok, j'admire, je me laisse inspirer, voilà. Et des fois, j'aurais aimé avoir le même niveau, quoi. C'est pour quand. Voir, je vais être un peu mieux. Et le pire, c'est quand quelqu'un a le même don que moi. Ah, c'est terrible. Exactement le même don que moi, mais alors plus d'expérience, plus à l'aise. Le don est plus développé, ça me fait trop envie. Là, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est de confesser. Vraiment, je vous invite à confesser ces sentiments, disons, ce penchant à se comparer et à jalouser. Il faut démarrer là, quoi. Il faut confesser aux yeux, demander pardon. parce que ça nous bloque trop dans nos relations, déjà, même sans parler des dons, hein, ça nous bloque trop dans nos relations entre femmes, et c'est trop dommage parce que ça nous empêche d'être plus proches et de vraiment savoir nous valoriser plus mutuellement. Donc, on confesse, on demande pardon au Seigneur, et on se dit que, voilà, je vais me laisser inspirer, vraiment, je vais admirer, je vais même faire des compliments. Je vais aller trouver tel et tel et lui dire, c'était bien, j'ai bien apprécié. J'apprends, quand je te regarde, j'apprends, c'est chouette. C'est pas facile, je sais, je dis ça facilement, mais je sais que c'est pas facile. Mais je pense que le Seigneur nous demande d'aller vers ça. Aussi pour soutenir ceux qui se sont lancés, qui sont dans leur ministère, et qui fatiguent aussi, même s'ils sont doués, ils fatiguent parfois, ils découragent parfois. Même les plus doués, bon, ils se posent des questions aussi, hein. Ça leur serait facile, mais derrière, il y a tout un tas de remises en question. Donc il faut qu'on sache vraiment aller vers elle, même si la jalousie nous guette, mais on va essayer de mettre ça de côté, justement, de remettre ça au Seigneur, et dire, ok, je vais aller féliciter parce qu'il a franchement le chant ce matin, c'était juste magnifique. C'était magnifique. Et c'était vraiment la gloire de Dieu. Il faut que je lui fasse un compliment. C'est sûr que moi, qui en arrière-plan, à la fois norvégien et américain, j'ai dû apprendre à doser les compliments parce que les Américains sont terribles. Donc, bon, pour ça, ils mettent le paquet et d'un coup, c'est irrécevable. C'est trop. Ils vont me faire des compliments, mais en masse, et d'un coup, c'est pas très crédible. Donc, j'ai dû apprendre à doser. Donc, il y a un dosage à vivre. Un dosage qui est juste, on ne va pas multiplier, on ne va pas aller doser des excès, mais on va juste, voilà, ça, mais j'ai aimé, quoi. C'est bien ce que tu fais. Vraiment, c'est bien. Alors, moi, j'essaie de m'arrêter là. Naturellement, je voudrais dire plus, mais voilà, il faut qu'on sache bien doser ce que l'autre peut recevoir. Aussi, pour ne pas monter, on ne va pas tomber dans la flatterie, c'est pas ça. Je n'ai pas le don que j'aimerais avoir. Je ne l'ai pas. Voilà, c'est sûr que on est appelé à ne pas sous-estimer le don qu'on a. On est appelé à apprécier, même s'il y a d'autres dons qui nous semblent peut-être plus valorisants, qui nous font rêver, en fait. Dieu ne s'est pas trompé quand il m'a créé, il m'a donné un don vraiment qui me correspond dans ma personnalité. Et je pense que, ouais, il y a des jeunes parfois qui viennent vers moi, qui me disent, mais voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et je trouve ça beau parce que je pense que le Seigneur nous permet, c'est même dans sa parole, c'est écrit, à aspirer à certains dons. Bon, dans sa parole, c'est surtout marqué aspirer au don le meilleur, et là il y a la question de l'amour. Hein. Mais aspirer au don, on peut. Moi, quand j'étais jeune, j'admirais énormément ceux qui pouvaient enseigner, se mettre devant. J'étais plutôt timide, et même à l'école, dans ma classe, je me souviens, petite fille, j'avais beaucoup de peine. Pourtant, j'avais des choses à donner, j'avais des choses que j'avais envie de partager, mais complètement crispée. Et je me souviens que j'ai prié pour ça, déjà petite. Seigneur, j'ai envie d'être à l'aise. À l'aise avec les gens et à l'aise devant les gens. Pas que je m'imaginais une grande carrière d'oratrice, c'était pas du tout ça, mais d'être à l'aise, de pouvoir prendre la parole en public. Et j'aspirais à ça. Je demandais, j'ai prié pour ça. Et je me mettais en situation, disons, je me forçais parfois à me mettre dans des situations où j'étais obligée, mais pour m'entraîner, pour petit à petit apprendre. Alors, c'est sûr qu'on est venu en France avec un français moyen, c'était moins évident. Là, ça a pris quelques années avant que j'ai osé en français prendre la parole en public. Mais voilà, c'est juste un petit exemple. Je pense qu'on peut aspirer à des dons qu'on n'a pas. Le Seigneur nous permet de viser. Alors, à lui de nous accorder ou pas, c'est son choix à lui. Je sous-estime pas ce que j'ai en moi, mais j'aspire aussi à la découverte aussi des dons que je n'ai pas vus encore en moi. Parce qu'on a tellement de choses en nous, tellement de ressources, et je pense vraiment qu'on peut être dans l'attente très positive de voir ce que Dieu va révéler, peut-être à une autre étape de ma vie, où je vais pouvoir entrer dans certains dons qui sont peut-être aujourd'hui en potentiel, mais j'aurai la possibilité de plus les développer et les utiliser à une autre étape de vie. On peut aspirer à ça, on peut rêver de ça et on peut prier pour ça. Ce n'est pas le bon moment. Là, je suis trop fatiguée. Mon boulot me prend un temps fou. Je suis vraiment exercée mon don. C'est là le plus petit de mes soucis. Là, franchement, la vie de famille, voilà, je suis archi prise, quoi. Il n'y a plus rien qui rentre dans mon planning. Mais vraiment plus rien. Alors, ça, c'est un gros obstacle, si vous êtes d'accord. Hein. Là, on sait tous de quoi on parle, qu'on soit aux études, qu'on soit mère de jeunes enfants, mais mère d'ados, c'est costaud aussi. J'en ai deux à la maison, c'est voilà, il faut être bien là, il faut être dynamique. Mais alors, quand on voit qu'il y a des étapes de notre vie où on a moins de temps pour l'Église, on a moins de temps pour les activités de l'Église, les ministères dans l'Église, il ne faut absolument pas que ça m'empêche d'utiliser mes dons. Mes dons ne sont pas juste pour l'Église. Dieu est partout, hein, dans mon bureau, à la maison. Dieu m'appelle à utiliser mes dons partout. À commencer au sein de ma famille. Si je suis douée pour chanter, mais Dieu me demande aussi d'utiliser ce don auprès de mes enfants. Si je suis douée pour écouter, Dieu me demande de commencer par écouter mon mari. C'est moins évident. C'est beaucoup moins évident que quand c'est un ministère clairement défini, dans l'Église, voilà, c'est mon rôle, j'écoute les gens, c'est magnifique. Nos dons doivent, c'est pas une option, s'exprimer à la maison. C'est clair qu'il y a des dons comme l'enseignement, par exemple, je veux pas me mettre à enseigner mon mari, je veux pas me mettre à enseigner... Mais il y a des éléments même de ça que je peux employer à la maison, auprès des enfants par exemple. Le don de la relation d'aide, je ne veux pas faire une relation d'aide si j'ai ce don-là à ma fille, mais je veux employer certaines des ressources que j'ai en moi aussi dans la relation avec mes enfants. Donc, dans les étapes où on ne peut pas être trop impliqué à l'Église, et même dans les étapes où on est bien impliqué, n'oublions pas que je suis appelée à fonctionner avec tous mes dons et toutes mes capacités, où que soit mon lieu de fonctionnement, de vie. Quand je rentre dans ma classe pour enseigner un cours d'anglais, je sais que Dieu est là dans la classe, je le sais. Et je sais que je suis autant à son service là que quand je dirige une réunion de prière, par exemple, ou une rencontre de dames. Et j'ai envie de plaire à Dieu, et j'ai envie d'utiliser mes dons, et le don que j'ai de pouvoir encourager, j'y vais, quoi, à fond. À la limite, c'est plus important que l'anglais. Alors, il faut que je reste professionnelle quand même, je ne peux pas faire coach de mes élèves, mais je veux vraiment les valoriser. J'enseigne dans le cadre du Greta où j'ai beaucoup de chômeurs, ils ont des gens sans emploi qui viennent dans mes cours pour essayer de étoffer un peu leur CV, ils essaient d'augmenter leur qualification ou leur compétence en anglais. Il y en a plein qui sont assez à part à l'épacrète et c'est juste un grand plaisir, quoi, de pouvoir, avec l'aide de Dieu, porter sur eux un regard valorisant, de les voir, vraiment les voir, et de chercher à les encourager là où ils se trouvent. Dieu me demande d'utiliser ce don-là dans mon boulot. Donc, quand il y a des étapes de vie qui me coincent un peu par rapport aux activités de l'Église, il y en a plein, surtout pour nous les femmes, il y a des étapes où, ben voilà quoi, on a juste moins de disponibilité, moins de temps, peut-être moins d'énergie aussi, mais voilà, j'évalue mon étape de vie, je vois ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, où je peux m'engager, où je ne peux pas, et c'est ok si je fais ça devant Dieu, avec Dieu, et je peux même communiquer à l'ancien âme, là, je suis dans une période, vous me verrez le dimanche, mais en dehors de ça, je ne serai pas extrêmement présente. Moi, en tant que femme de pasteur, j'ai dû le dire. C'est un peu costaud quand même. Hein. Tu fixes mon nouveau avec les anciens, tu es la femme du pasteur, et tu dis, désolée, mais là, je suis juste débordée, quoi. Je peux pas. Mais c'est pour un temps, je leur dis, c'est pour un temps, laisse-moi juste passer le cap. Et après, je reviendrai dans tel et tel domaine. Mais on peut définir les choses, parce que nous, en tant que femmes, on vit énormément d'étapes différentes. Nos disponibilités, nos énergies, ça varie énormément. Même dans le mois, on le sait, c'est variable, hein, même dans le mois, on est constamment dans des cycles. Et voilà, c'est juste normal. Et je peux exprimer que là, voilà, je peux donner un peu plus, faire un peu moins. Il ne faut pas que ça soit un problème, mais c'est bien de communiquer les choses. Nous avons plein de jeunes mères de famille dans notre église à Montpellier, et je suis très très touchée de voir combien beaucoup s'impliquent dans leur voisinage pendant la période de bas âge, quand elles sont à la maison, ceux qui ont la chance de pouvoir rester à la maison, hein, les voisins, les cafés entre voisines, les copains d'école qu'on invite à la maison petit à petit. Voilà, c'est une période géniale pour cultiver justement cette vie un peu de quartier. C'est un peu idéal ce que je dis parce qu'on est parfois dans des villes dortoirs, on ne voit pas toujours beaucoup de monde aujourd'hui ou parce que tout le monde travaille. Mais voilà, il faut chercher à voir le potentiel dans ma situation ici maintenant et comment je peux exploiter. Et pas juste dresser la liste de tout ce que je ne peux plus faire. C'est tentant parfois, hein, quand on compare avec des étapes, on avait plus de liberté ou plus d'énergie, plus d'entrain. C'est-à-dire, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. Il y a des étapes où le Seigneur nous demande, voilà, maintenant c'est la prière. Hein. D'accord, tu es à la maison, tu n'as pas beaucoup d'énergie, ça peut être dans une période aussi de maladie ou de vieillesse. Le Seigneur nous demande, voilà, ok, c'est ça maintenant, qui a toute son importance pour moi. Donc, voilà, d'être d'accord, de vivre ces étapes, et c'est jamais un mauvais moment pour utiliser ces dons. C'est toujours le bon moment, mais à nous de voir comment, où, comment, envers qui, etc. Alors, j'accélère un tout petit peu. Personne ne me voit, personne ne m'encourage, je manque de retour. Gros obstacle aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a une tendance qui est en train de changer où les anciens de nos églises voyaient plus les jeunes poules hein, à potentiel que les jeunes femmes. Là, je juge de personne, mais c'était comme ça pendant très longtemps. Très, très, très longtemps. Petit à petit, ça change et on s'est dit, tiens, il y a des ressources chez les femmes. Ce serait peut-être une idée, un enrichissement pour l'Église, qu'on regarde de plus près les dons des femmes de tout âge dans notre Église et de voir comment on peut profiter de leurs ressources. Donc tout ça, c'est en route de plus en plus et on est ravis. Mais de se sentir un tout petit peu peut-être oublié ou négligé ou carrément pas vu, c'est sûr que ça implique des frustrations. Et là, si c'est votre cas, moi, je vous encourage à fixer rendez-vous avec l'ancien de votre choix et son épouse. Pas besoin de rencontrer tout le collège d'anciens, hein. C'est pas nécessaire, mais l'ancien avec qui vous vous sentez le plus à l'aise, vous fixez rendez-vous, vous demandez. Mais bref, vous ne savez peut-être pas exactement dans quoi vous voulez vous impliquer, mais vous avez envie d'être utile. Donc vous pouvez simplement présenter ça. J'ai envie d'apporter ma pierre, d'être utile. Comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'il y a une place qui pourrait me correspondre? On peut fixer rendez-vous pour parler de tout ça. Vraiment, je vous encourage à le faire. Donc, dans toute simplicité et à tout âge. Parce que je rencontre parfois des femmes qui sont à la retraite et qui disent que... Mais voilà, c'est plutôt pour des jeunes de fixer ce genre de rendez-vous. Mais non, c'est pour tout le monde. Si on sent qu'on a encore de l'énergie, une volonté de s'impliquer, on peut demander. Dans l'église actuellement, on a une femme qui a 40 ans, qui a une maladie que je ne pourrais pas décrire, mais qui l'handicape pas mal. Et elle a pris l'initiative de constituer toute une équipe de prière, donc en dehors de nos réunions de quartier, tout ça. Et ils invitent cette équipe, l'équipe invite l'église de téléphoner avec leur sujet. Donc elle a mis tout ça en place et c'est génial. Elle peut faire ça chez elle. C'est très dynamique parce que ça évolue chaque semaine. Il y a toute une communication entre elle qui est un peu leader de cette équipe et tout un tas de gens dans l'église. Donc d'un coup qui profitent. Là j'ai un entretien de boulot mais je flippe. Prie pour moi à 2 heures. C'est super. Je trouve ça vraiment vraiment très chouette. Donc elle a trouvé un créneau. Il a un vrai besoin, ça lui correspond, elle a une vision pour ça et ça fonctionne très bien. Quand je ne suis pas vue et pas trop encouragée, je me dis, moi je ne vais pas faire pareil. Et là je rejoins un petit peu ce que je disais par rapport au feedback et compliments. Quand moi je manque de retour, quand moi je me sens un peu ignorée, mais au lieu de rester là-dessus, essayons de nous dire, je ne veux pas faire pareil. Moi, je vais essayer de voir ce qui se passe autour de moi, encourager, donner du feedback, donner des retours, et voilà. C'est bien de pouvoir rebondir comme ça. J'ai peur de la critique. Moi, j'ai peur de la critique. J'aime pas. Il y a des fois, on me critique, parce qu'on me voit, je suis exposée. Il y a des attentes, je parlais de ça tout au début, il y avait des attentes vis-à-vis de moi comme femme de pasteur, du style que je visite toutes les femmes de l'église, mais à tour de rôle comme ça. Et j'aime bien faire des visites, mais de là à tourner non-stop, je ne peux pas, et je ne veux pas. Ce n'est pas tout à fait la conception de ce que Dieu me demande de faire. Alors après, voilà, il faut encaisser la critique. Je pense que c'est important de ne pas se laisser arrêter par cette crainte de critique. Il faut juste se dire que c'est normal. Si on prend une responsabilité, si on nous voit exercer notre don, il y a forcément un élément de critique. Plus ou moins constructive, parfois très négative. Il faut qu'on sache que c'est normal, c'est notre état humain, on va rencontrer de la critique. Et je pense que si on n'est pas d'accord d'affronter la critique, il y a un souci, parce que c'est inhérent, j'allais dire, à la vie humaine, aussi dans l'Église. Il faut être très réaliste par rapport à ça. Il y a des remarques. L'important, c'est de savoir comment se situer. C'est la gestion des critiques. Il ne faut pas que ça me bloque. Il ne faut pas que ça me crispe. Je ne veux pas être très belle si je me crispe, si j'ai constamment peur de la critique, que dira-t-on? Non. Il faut juste que je sache que quand on me critique, je suis d'accord d'écouter. J'écoute. Après, je prie. Et je trie. Moi, je trie les critiques. Ah, il faut le faire, hein. Parce qu'il y a des gens qui critiquent tout à fait gratuitement. On doit prier devant Dieu. Ok, on m'a dit ça. Qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on vient de me dire? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui vient de toi? Qu'est-ce qui est constructif pour moi? Et j'essaye, c'est pas toujours facile, mais j'essaye de donner tout ça à Dieu et de lui demander de m'aider à faire le tri. Donc je prends, idéalement, tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui est juste, tout ce qui en fait doit me faire réfléchir. Et je mets de côté tout ce qui était gratuit et sans fondement. Et qui était peut-être même motivé par des sentiments de jalousie. Peut-être. Ça peut arriver aussi. Qu'on nous critique parce qu'en fait, on aimerait bien. Donc, je pense que la peur de la critique, il faut être réaliste. On sera critiqué, mais il ne faut pas que ça nous bloque, quoi. Il faut juste savoir le gérer avec le Seigneur et prendre les remarques qui semblent constructives, être d'accord de se remettre en question, se dire, voilà, j'ai effectivement une ou deux choses à corriger. Il y a des points imperfectibles. Il y a des choses à travailler, et ça tout le long, quelle que soit son expérience. La longueur de son ministère ira toujours à perfectionner, à travailler, à peaufiner, à affiner, tout le long. J'ai peur d'être fière. J'ai peur d'être orgueilleuse. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous travaille. Et c'est bien, quelque part, que ça nous travaille. Il ne faut pas que ça nous travaille trop, quand même. Dans le sens où il y a une bonne fierté. Il y a une fierté qui est bonne et voulue par Dieu. La fierté de rentrer dans ce qu'il dit, lui, il a prévu pour moi. La fierté de se dire, waouh, là, il m'a donné quelque chose. Je sais accueillir. Je sais comment offrir un accueil chaleureux. J'aime l'hospitalité, mais c'est trop bien. J'aime avoir du monde à la maison. Je sais comment les mettre à l'aise. On peut être fier de cette capacité que Dieu m'a donnée, que Dieu nous donne. Je dis, mais merci Seigneur. C'est vrai que ça vient de lui. C'est à lui, et tout l'honneur est à lui. Mais je peux me réjouir. Il m'implique dans son travail. Il a trouvé ce qui me correspond. Il m'a donné ça comme capacité. Et je la joie de utiliser ce don. Parce que si on est là constamment, ah non, en fait, je ne sais pas trop, on sait pertinemment qu'on a le don. On se sent à l'aise, mais on rentre dans une espèce de fausse humilité qui ne nous rend pas franchement très belle. Hein. Vraiment pas du tout. Et ça se sent, la fausse humilité se sent, on le voit. Je pense que quand quelqu'un nous fait un compliment, on peut dire merci. C'est chouette que t'apprécies, quoi. Tous ceux qui disent tout de suite, gloire au Seigneur. Alors, je comprends l'intention, et c'est une bonne intention, gloire au Seigneur. Mais je pense qu'on a le droit de dire aussi merci. Nous, on sait que ça vient de Dieu. Je n'ai rien inventé moi-même. Mais j'ai peut-être pris le temps de développer le don. J'ai peut-être pris le temps de me former. Et je suis ravie que mes efforts soient quelque part récompensés et qu'on voit que, voilà, que je me suis mise à... Dans une situation où j'ai pu développer et je peux remercier quand on me donne des retours positifs. Ça, ce n'est pas de l'orgueil du tout. Je pense que c'est si je ne le fais pas et je tombe dans une fausse humilité que je risque de cultiver un orgueil. On peut reconnaître, voilà, j'ai ce don-là, j'ai la joie de l'utiliser, je suis trop contente de voir qu'il y a des résultats, que c'est génial. Comment ça me réjouit? Ça me réjouit en moi, moi femme, ça me réjouit pour Dieu, ça me réjouit pour l'Église. Je m'incruste. Dernier point. Je tiens à ma place, et je tiens, et je tiens, et je tiens. Et en fait, ce que je faisais dans le temps ne correspond peut-être plus tout à fait. Je me suis essoufflée. Je pense que c'est un blocage aussi pour développer d'autres dons. Il y a des fois où on est resté très longtemps dans un domaine qui effectivement nous correspondait et qui nous correspond peut-être toujours, mais voilà, c'est l'heure de changer de ministère et de développer peut-être d'autres dons que j'ai et de laisser la place à d'autres. On ne veut pas bloquer les dons des autres, on ne veut pas bloquer le développement de peut-être d'autres aspects de ma personnalité et de mes capacités. Donc, on ne va pas tenir un rôle, une position, une responsabilité, mais péquer ongle, c'est à moi, c'est mon identité. Non, non. Je pense que là, il y a des remises en question à vivre, et je sais que dans le cadre de notre église, souvent, on demande les personnes, je pense que là, ça va être un peu plus organisé, mais en septembre, non, c'est à la fin de l'année scolaire. Est-ce que tu veux continuer dans ce ministère? Est-ce que tu souhaites continuer? Est-ce que tu as envie de tester autre chose? Est-ce que tu as envie de développer autre chose? De former dans un autre domaine qui semble te correspondre? Parce qu'on a besoin aussi d'être un peu renouvelé par le moment. Même si c'est notre don et même si on est bien. Mais il y a des fois où c'est l'heure de changer un peu de secteur. Il y a des fois aussi que dans la vie de l'Église, il y a des besoins, peut-être qui ne correspondent pas exactement à ce que je peux apporter, mais je suis d'accord de donner un coup de main, peut-être de délaisser un tout petit peu mes domaines où je suis plus fort pour donner un coup de main dans un domaine où il y a vraiment des besoins. Je ne pense pas que ça doit être notre fonctionnement habituel de tout le temps dépanner. Je pense qu'on doit chercher à fonctionner dans nos dons. C'est là où il y a cette beauté dont on parle. Mais, de temps en temps, je fais donc assistante de chef de cuisine. J'assiste. Je ne me sens pas très à l'aise. Vraiment pas. Mais, quand il y a besoin, je peux donner un coup de main. Je ne suis pas non plus support au ménage, mais ça ne m'empêche pas de faire partie d'une des équipes de ménage. Ce n'est pas mon premier don. Bon, je pense que c'est rarement le premier don de quelqu'un, enfin, oui. Mais voilà, j'essaie d'être utile aussi dans des dons qu'ils n'ont peut-être pas très développés. J'aimerais maintenant qu'on puisse prendre du temps, j'ai dépassé un tout petit peu l'heure que j'avais prévu. Je vous encourage maintenant à prendre du temps en groupe. J'avais prévu peut-être des groupes de 4-5 personnes. C'est bien si les générations sont un peu mélangées, je trouve ça très bien. Et je vous propose de parler pendant 20-25 minutes sur vos dons, de partager un peu les dons que vous avez découverts en vous ou les dons que vous êtes en train de développer et de prier pour les blocages. Peut-être c'est la jalousie, on peut le nommer, on peut dire Seigneur, mais vraiment, aide-moi. Je confesse, on peut confesser des choses. Alors, ce ne sera pas évident toujours de tout nommer dans un petit groupe, c'est assez intime. Je vous lance un défi, je réalise bien. Mais si on peut parler un tout petit peu aussi des blocages qui nous empêchent d'aller plus loin, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est surtout pour prier les unes pour les autres. Parce qu'il y a un potentiel qui est là devant nous, mais à tout âge. J'ai 54 ans. Je me dis... Parfois, je me dis, voilà, j'ai cerné la chose, je suis tentée de me dire, voilà, je vois à peu près qui je suis, j'ai mis du temps, mais là, j'arrive à définir, mais non. En fait, je pense que je vais encore découvrir des choses. En tout cas, je veux, moi, j'ai envie d'explorer encore autre chose. Et on peut aussi parler de ça. Peut-être qu'il y a encore de nouveautés, aussi à la soixantaine et à 70 ans, quelque chose de nouveau que le Seigneur nous montre, qu'il nous donne, qu'il développe pour nous. C'est beau d'avoir cette perspective-là et on peut s'encourager aussi par rapport à ça à tout âge. Donc voilà, petit groupe, 4-5 personnes, je vais noter les questions sur le tableau. J'aurais aimé toutes vous entendre en fait, mais je suis contente que vous avez pu avoir un peu de temps dans les groupes pour échanger. Et moi j'aimerais vraiment vous encourager à continuer à prier les unes pour les autres. Et peut-être en particulier les jeunes qui débutent leur recherche, mais aussi pour tout âge. Comment on se situe à tout âge, dans toutes les périodes de vie, Où est-ce que je peux être le plus utile en utilisant les dons et les capacités que Dieu m'a donnés ici et maintenant? C'est une recherche un peu constante et c'est bien si on peut se soutenir et ne pas oublier surtout de se donner des bons retours aussi, de chercher à s'encourager mutuellement et faire un compliment ou deux de temps en temps. Ça nous fait du bien, on en a besoin pour avancer et continuer à développer ce que Dieu nous a donné. Je vous ai mis les listes des dons parce que je vous ai parlé du livre « Découvrez vos dons ». Bon, il n'a rien inventé, hein. Les dons sont dans la Bible, hein. On est bien d'accord. Ce n'est pas une liste à lui tout seul. Il y a trois listes très importantes qui se retrouvent donc en Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4. Moi, je vous encourage à les lire. Alors, vous allez voir qu'il y a quelques regroupements, mais ce n'est pas les mêmes listes. Parce qu'en fait, chaque église avait des besoins spécifiques. Donc, la liste des dons pour l'église de Corinthe n'est pas la même liste que pour l'église de Romains, parce que ces églises avaient des profils différents. C'est très intéressant. Éphésiens, encore une autre église avec ses besoins à elle. Donc, il faut lire les trois listes. Donc, vous allez voir, il y a les regroupements, par exemple, pour l'enseignement. Toutes les églises avaient besoin d'enseignement. Après, il y a des dons qui étaient plus sollicités ou qui plus on demande dans certains contextes que dans d'autres. C'est intéressant de lire et d'un coup, vous remettez un tout petit peu les dons en tête pour aussi vous aider dans votre propre recherche. J'ai mentionné le livre « Découvrez vos dons ». J'aimerais aussi mentionner la femme dans l'Église. J'aime beaucoup le chapitre sur l'Église primitive. C'est magnifique. Elle était donc, mais en pagaille. Les femmes dans l'Église primitive, l'épître, dans le livre des Actes, c'est magnifique. Des femmes, mais dynamiques. Alors, c'est sûr, on s'est dit que c'était le début de l'Église. Forcément, il y avait du dynamisme. C'était le début. Ça fourmillait, ça grouillait. C'était. Il y avait l'Esprit Saint qui venait d'être déversé sur les chrétiens. C'était une époque incroyable. Mais les dons qu'elles avaient, toutes ces femmes, dans les Actes des Apôtres, ça peut aussi nous inspirer. Il y a de très, très beaux témoignages de tout ce que les femmes faisaient à l'époque. Un troisième livre. Alors, je n'aime pas du tout le titre, c'est un peu rentre dedans. Oser s'affirmer. Autant que femme, on a parfois besoin d'aide pour savoir où se situer, quand dire non, quand dire oui. C'est pas évident, parce qu'on veut cultiver cette disponibilité, générosité, et tout ça c'est très très bien, mais il y a des limites à fixer. Suivant les étapes de vie, suivant ma santé, mon énergie, suivant, voilà. Mon planning, il faut que je regarde les choses un peu globalement. Donc je veux rester ouverte et généreuse, mais il y a des fois où je dois dire non. Peut-être en particulier quand on me demande des choses où je sais que je ne serai pas très utile. Je parlais de ça tout au départ, lors de cette intervention, des fois où voilà, j'ai dit oui, il y a des choses qui... ce ne sera pas très judicieux, quoi. Donc, oser s'affirmer, c'est beaucoup sur les limites surtout. Apprendre à fixer les limites qui sont bonnes pour moi ici maintenant. Oser dire non sans culpabiliser, mais un vrai non parce que, en fait, c'est ce qui est juste ici et maintenant. Et un vrai oui d'un coup. On est libéré aussi pour dire oui de tout cœur aussi. Donc, ces trois livres, je vous les conseille. À voir si c'est possible de faire des commandes groupées. Vous allez discuter entre vous. Ce livre-là, il est vraiment très intéressant et très libérateur. Qu'on ait le droit de rentrer dans ce qui vraiment nous correspond, tout en donnant un peu de main. D'ailleurs, on est d'accord. Hein. Mais voilà, de développer vraiment ce qui semble être naturel pour moi, ce que Dieu m'a donné, et de ne pas courir partout, tout le temps. Ça nous gâte les femmes et... ça nous aide à nous canaliser, quoi, de fixer certaines limites. On va regarder une petite pub. pub que j'aime beaucoup, qui me fait monter les larmes. À chaque fois, je vais le voir 5 ou 6 fois. C'est sur la beauté des femmes, la perception qu'on a de nous-mêmes, de notre propre beauté, et comment les autres nous voient. Alors, je m'excuse, c'est en anglais, mais tout est sous-titré. Donc, s'il y a certains qui doivent s'approcher pour bien voir le sous-titre, n'hésitez pas.
I'm a forensic artist. I work for the San Jose Police Department from 1995 to 2000.
I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board.
We couldn't see them, they couldn't see us.
Tell me about your hair.
I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me.
Tell me about your chin.
It kind of protrudes a little bit. Especially when I smile.
Your jaw?
My mom told me I had a big jaw.
What would be your most prominent feature?
Kind of a fat, rounder face.
The older I've gotten, the more freckles I've gotten.
I would say I have a pretty big forehead.
Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them.
All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe.
Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face.
She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin.
She had nice eyes. They lit up when she spoke.
Cute nose.
She had blue eyes, very nice blue eyes.
This is a sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you.
See how that is?
Sans tomber bien sûr dans du narcissisme, il faut se pour éviter ça, mais qu'on soit un tout petit peu moins critique envers nous-mêmes, on croit. Un peu moins dur avec nous-mêmes. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan de voilà, nos capacités, nos dons, jamais tout à fait bien, quoi. C'est vrai qu'on est appelé à évoluer, à aller plus loin, à faire mieux, à développer, on en a largement parlé, développer même des dons jusqu'à là insoupçonnés. Voilà, on parle de ce potentiel, mais je peux me réjouir de tout ce que j'ai ici et aujourd'hui, ici et maintenant. Et j'avais envie de conclure en parlant du regard de Dieu sur moi. Parce que s'il y a quelqu'un qui a un regard mais positif, c'est Dieu. Et ça, c'est sans que je lève le petit doigt. Sans que j'exerce un quelconque don. Et c'est sans que je sois même en recherche de mes dons. Parce qu'on peut se dire, voilà, Dieu, il doit avoir un regard clément sur moi, si je suis un peu dans l'action quand même, si je suis en train de... Mais non, le regard de Dieu est le même sur moi. Quand je suis complètement immobile, pas du tout courageuse pour chercher quoi que ce soit, ou faire quoi que ce soit, mais vraiment juste un peu à plat même. Dieu me regarde et il est réjoui, il guette même ma respiration. Le fait que je respire, ça plaît à Dieu. Alors vous allez me dire, mais là vous exagérez quand même, hein. Là ça va un peu trop loin. Mais non, Dieu s'est réjoui tellement de sa création et il nous trouve tellement belles à ses yeux, mais resplendissants en Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, mais. On a une beauté qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est vrai que, comme vous voyez, ça me touche et je me dis, mais quand Dieu parle de cette épouse blanche, sans tache, resplendissante, cette épouse qui est son église, mais ça c'est nous, une beauté éclatante, malgré toutes nos imperfections, une beauté éclatante. Et je pense vraiment que c'est très important de se souvenir de ça et de garder ces perspectives parce que il y a des moments où on l'a dit, qu'on est critiqué, on a un peu marre en fait de servir, il y a des moments où on est fatigué de servir, des fois on n'a pas trop envie de rentrer dans nos dons, on a juste envie qu'on me laisse tranquille. Et là, on peut et après on est frustré, on culpabilise et on se sent vraiment pas très belle aux yeux de Dieu, mais en fait, même dans ce moment-là, Dieu a un regard sur nous qui est vraiment d'une douceur et d'un amour que, voilà, qu'on ne peut pas qualifier, que je ne peux pas, je sais qualifier, mais mes mots sont très faibles par rapport à la réalité. Et on peut se réjouir de cela, et je pense vraiment se laisser inspirer par ce regard de Dieu sur nous. Il nous trouve magnifiques, vraiment. Et sans regard que les femmes portaient les unes sur les autres, c'est vrai que c'était déjà très valorisant, mais c'est loin en dessous du regard valorisant de Dieu sur nous. C'est déjà très beau, hein. Moi ça me fait pleurer des pubs comme ça, moi ça me suit, vous le voyez, vraiment ça me fait monter l'émotion, je me dis, c'est incroyable, on est trop critique, c'est pas possible. Il faut qu'on rentre dans ce regard valorisant, ce regard positif. Mais sans vivre avec Dieu, c'est difficile. Et je pense, puisqu'on a parlé d'obstacles aujourd'hui, que c'est peut-être parfois notre obstacle majeur pour rentrer dans nos dons. Qu'on ne vit pas vraiment avec lui. On croit, on a la foi, on est converti, mais de vivre avec lui, le vrai face-à-face, où je me nourris de son regard, je me laisse valoriser, d'un coup, mais alors si je vis ça, Mais ça m'étonne, mais un courage et un espoir aussi dans cette recherche de mes dons, le développement de mes dons, d'un coup, j'ai des ressources. Donc, cherchons toutes à aller plus loin dans le face-à-face avec le Seigneur, de jouir pleinement de son regard sur nous, sa joie, la joie qu'il a de nous voir, toute sa fierté à nous voir simplement vivre, exister. Il est fier de nous. Et alors, en plus, il rentre pleinement dans nos dons. C'est vrai que la beauté est sans limite. Mais on est déjà belle à la base. Et c'est important de se souvenir de ça, peut-être dans des moments où on ne peut pas faire grand-chose. Et des moments où on est découragé. Cette beauté-là, ce n'est pas possible que ça soit terminé. Dieu nous aime tellement, il est tellement fier de sa création. Nous sommes comme il nous a voulu, il nous a créés vraiment. Et même créés à son image, on ne se presque pas imaginer que ça soit possible. Moi, je ne comprends rien de ça. Créer à l'image de Dieu. Alors, ça veut dire, mais aussi que le plus que je m'approche de lui, le plus je me laisse nourrir par lui, le plus que je veux aussi refléter son image. Et la beauté est sans fin. Donc voilà, un encouragement pour nous toutes à cultiver cette relation avec le Seigneur et qu'il nous donne le courage, les ressources nécessaires pour aller plus loin dans le développement de mes dons et que je puisse juste être reconnaissante quoi, d'appartenir à un Dieu tel que lui qui veut m'utiliser, qui m'associe à son travail parce qu'à la base, on le sait très bien, il n'a pas vraiment besoin de nous. Il peut tout faire, tout seul, un claquement de doigts. Mais il a choisi de nous associer à son œuvre. Il veut collaborer avec nous, il veut exploiter nos dons. C'est son plan. C'est le plan de Dieu pour l'Église, le fameux sacerdoce universel. Tout le monde, son rôle, son utilité, tout le monde, sa bonté. Et on peut juste se réjouir ensemble. C'est un très très grand projet. Ce corps qui fonctionne à merveille parce que les dons s'harmonisent entre eux et les dons savent quelque part se valoriser entre eux, c'est magnifique. Donc, il y a du beau potentiel devant vous, ici dans cette église, dans cette découverte, ce développement, cette application de tout ce qui est en vous, en chacune. Et il y a un énorme potentiel pour l'ensemble de l'Église de Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on se laisse décourager. Nous sommes belles, très très belles aux yeux de Dieu. Et c'est pas fait. J'avance rien. Merci.
Merci Ruth-Hélène pour cette intervention qui clôture les trois rencontres qu'on a eues depuis l'automne dernier. Donc être belle aux yeux de Dieu. Donc c'est vrai qu'on avait redit l'importance de la crainte de l'Éternel par rapport à la femme vertueuse, qui se traduit dans ses actes, dans ses paroles, son apparence, mais qui se traduit aussi via les dons au sein de l'Église. Et donc ça, je trouve que ça clôture vraiment bien tout ce thème qu'on a vu ensemble. Et du coup, j'en profite pour vous annoncer aussi la suite. Donc on continue cette année avec deux autres rencontres, une qui aura lieu en janvier-février et une autre avril-mai. Et donc la thématique, en lien avec ce que vous aviez demandé lors des sondages, ce sera être une femme battante pour Dieu. Alors certes, le titre, ça ne parle pas toujours à tout le monde, mais voilà l'importance de comment, enfin, la vie aujourd'hui est un combat personnel, spirituel, et comment est-ce que, voilà, aujourd'hui, avec nos différentes circonstances, nos différents lieux de vie, situations de travail, comment être resté accroché et se battre pour Dieu. Voilà. Donc, on vous a préparé une petite collation maintenant, donc profitez bien, discutez bien et à la prochaine.
Merci.